Il est notre meilleur chroniqueur de hockey. Il est notre seul, d'ailleurs. Mais il est très bon. Bruno Gervais, bon matin.
Salut, Steph. Hey, j'aime ça. T'as la manière là, de me mettre en confiance avant de commencer. J'aime ça.
Ah, ben je le sais, mais regarde, ça coule, c'est facile. On parlait des Jeux olympiques tout à l'heure. As-tu déjà eu la chance d'aller assister à des Jeux olympiques, toi qui es un peu en Europe quand dans ta carrière? As-tu eu la chance d'aller voir ça?
Non, moi, dans le fond, les Olympiques qu'il y a eu, surtout en Amérique du Nord, moi, ce que ça me rappelle comme souvenir, c'est que ça donnait un long congé dans la Ligue nationale. Quand j'étais en Europe, il y a eu les Olympiques, mais non, il n'y avait pas de congé à ce moment-là pour nous autres. Mais en Amérique du Nord, ça donnait un long congé quand les joueurs participaient aux Jeux olympiques. Et j'ai des beaux souvenirs qui découlent de ça, notamment, si vous allez voir le vidéoclip de Bob Bissonnette, J'accroche mes patins, filmé sur une plage dans les Bahamas, mais c'était pendant un congé olympique. Puis pendant le congé olympique, on faisait souvent des voyages et Bob, M. Bissonnette, se joignait à nous. C'était Max Talbot, Bob Bissonnette, moi et ma femme qui faisait ces voyages-là ensemble et on avait beaucoup de plaisir.
Tu parles du vidéo où Bob est assis à la plage avec son banjo, oui. Puis j'en ai des frissons. C'est vrai, OK. Donc, vous alliez... Ça, est-ce que c'était la grande majorité des joueurs qui... C'est quoi, c'est dans un genre de tout inclus? Vous en allez dans un endroit pour vraiment décrocher du hockey?
Oui, ça venait couper la saison en deux. C'était tous les joueurs, les gars assez intelligents pour juste jouer pas assez pour faire l'équipe olympique. Là, c'était ça. Puis après ça, tu partais en voyage. Comme ça, ça venait casser la saison. Tu avais une partie. Souvent, c'était un long congé. Et la première semaine, c'était repos total. Les gars, il y en a qui retournaient à la maison. Il y en a qui allaient, que ce soit dans les tout inclus, aller prendre un peu de soleil. Là, si tu ne jouais pas dans une ville qui était à l'été tout le long, là, tu voulais aller prendre un peu de soleil, prendre un peu de vitamine D. Puis après ça, tu revenais. Puis c'était comme un mini camp de sélection. Il y avait un camp de conditionnement. On se remettait dedans. On pratiquait ensemble. C'est surtout sur le conditionnement physique au début. Puis après ça, tu te repréparais. Puis là, des joueurs venaient te rejoindre, ceux qui étaient aux Olympiques. Revenait, puis là, la saison pouvait repartir.
Est-ce que, parce que tu sais, aujourd'hui, tu suis encore ça beaucoup, mais au moment où tu joues dans la Ligue nationale, puis là, tu es en congé à cause des Olympiques, puis c'est les 20 meilleurs joueurs de la Ligue qui sont là, plus que ça, mais en tout cas, pour représenter le Canada, est-ce qu'il y a un intérêt à regarder les matchs?
Oui, beaucoup. Mais que ce soit les Olympiques au complet, moi, j'ai tout le temps été un grand fan de cet événement-là. Donc, on regardait toutes sortes de disciplines, c'est certain. Mais là, OK, oui. Puis je me rappelle, quand tu revenais, puis là, on faisait la partie qu'en entraînement pour commencer à se côtoyer les joueurs, ben c'est là que le tournoi olympique, le tournoi de hockey commençait habituellement, commençait un peu plus tard. Et on se rejoignait souvent pour ces matchs-là. Puis t'as une rivalité, tu sais, le Canada, les États-Unis. Je me rappelle de cette finale-là contre les Américains, le Golden Goal de Crosby. Ben on était plusieurs joueurs ensemble. Puis là, t'avais les Américains qui écœuraient les Canadiens et vice-versa. Tu sais, pour le championnat du monde junior et pour les Olympiques, c'était des événements, c'était le fun à regarder.
Mais t'étais où pour le Golden Goal? T'étais où pour le Golden Goal?
J'étais à New York, j'étais chez Rob Schrempf. On était chez Rob Schrempf, on était une gang qui était un des joueurs quand j'étais avec les Islanders de New York. Et on a regardé ce match-là ensemble. Ça a été une super belle soirée, c'était très, très intense. On était un regroupement là, il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens. Puis ça a été spécial, là, ce moment-là, là, c'était le pays, le Canada versus les Américains, où on était tous, chacun de notre bord, dans la même équipe. Les gars qui jouaient un contre l'autre, il y a des gars qui étaient des coéquipiers pendant la saison régulière, mais tout a été mis sur pause pour ramener, revivre cette espèce de rivalité-là. Puis c'était intense. Ça a été quelque chose, cette soirée-là. Mais quand il y a eu le Golden Goal, j'étais chez Rob Schrempf. On avait une belle soirée. Mais Rob Schrempf, qui était un Américain, avait fait l'erreur de s'endormir pendant qu'on était encore chez lui. Et moi et Blake Como, on a passé 45 minutes avec des marqueurs permanents à lui refaire une décoration au visage pour vraiment qu'il se rappelle de ce moment-là du Golden Goal. Il l'a frotté longtemps, ce Golden Goal-là.
Mais lui, il a eu une belle carrière dans le hockey mineur, Rob Schrempf. Je me souviens, il a joué dans la Ligue junior majeure de l'Ontario, si je me trompe pas. Puis on dirait que ça n'a pas marché après pour lui, hein?
Ah, et puis ce qu'il a fait au niveau junior avec London, c'est phénoménal le nombre de points qu'il a eu. Quand tu parles d'un talent brut, il y a beaucoup de vidéos de lui sur YouTube pour ce qui est de ce qu'il était capable de faire en échappée. C'est un des premiers là qui était tellement à l'aise à prendre la rondelle à la style lacrosse, puis s'en venir en échappée. C'est un gars qui faisait un spectacle. Talent pur avec la rondelle, c'était fou ce qu'il pouvait faire. Il était dans une autre ligue. Mais il n'a jamais été capable de s'installer dans une équipe de la Ligue nationale. Beaucoup dû au caractère, beaucoup dû à sa façon peut-être de négocier avec l'adversité. C'était dur pour lui. Tout avait été facile jusque-là. Et là, il comprenait pas pourquoi il fallait qu'il se mette à travailler. Puis je pense qu'il a compris bien des choses, mais trop tard. Là, il est encore impliqué. Il conseille certains jeunes pour ce qui est de l'avantage numérique. Puis il parle de son vécu pour conseiller les jeunes à ne pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait. Ce qui est une bonne chose, mais c'est juste plate que ça a été un peu trop tard pour lui de réaliser ces choses-là.
Hey, ça doit être choquant quand t'es assis à côté d'un gars comme ça, que le talent il sort par les oreilles puis qu'il manque juste un peu de vouloir pour réussir.
Ah, c'est phénoménal parce qu'on savait tout ce qu'il était capable de faire avec une rondelle. Puis il arrivait dans des pratiques, il y a des moments où il se fâchait. Puis ça, c'était le fun à voir. Il se fâchait dans une pratique, puis il devenait trop bon pour tout le monde, puis c'était fâchant. Mais d'amener ça dans un match, on voyait juste des petits sparks ici et là. Puis moi, ça a été mon co-chambreur pendant un bout à New York, puis c'est le nombre de soirées. Puis il essayait, il avait une volonté, mais de passer des paroles aux actes, c'était difficile. Puis le nombre de soupers qu'on a passé, le nombre de moments de vol d'avion à parler, puis essayer de l'encourager, essayer de le motiver, essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Il avait tout le temps l'impression que c'était le coach qui l'aimait pas. Puis ça, c'est un problème qu'on voit partout. Puis les jeunes, on entend ça souvent. C'est pas vrai. Si tu te mets dans les souliers du coach, c'est pas vrai qu'il t'aime pas. C'est parce qu'il essaie de te pousser. Il essaie de t'amener plus loin. Il sait que t'en as plus à donner. Puis c'était tout un débat. Puis
c'était qui le coach?
Les équipes sont pas trop patientes. Il y en a eu quelques-uns, mais je me rappelle qu'il y avait Jack Capuano qui était difficile avec lui. Je crois qu'il y avait eu Scott Gordon aussi. C'est des gars qui essayaient de l'amener ailleurs, qui essayaient de le motiver, qui essayaient de l'aider, mais c'était pas perçu comme ça de sa part. Puis ça l'a affecté beaucoup son jeu.
C'était-tu le genre de gars plus tape dans le dos, Bruno, ou plus coup de pied au derrière? Parce que ça dépend. D'après toi, tu le connais.
Il fallait qu'il se fasse flatter. Il fallait qu'il se fasse flatter dans le sens du poil. Mais il fallait qu'il se fasse donner une liberté. C'est un gars qui avait besoin de liberté, qui détestait la structure parce qu'il était extrêmement créatif. Puis tout au niveau junior, il était tellement bon que l'entraîneur le faisait faire ce qu'il voulait. Fait que d'arriver en haute zone puis d'essayer de faire une feinte entre ses patins pour déjouer un joueur, s'il l'a, c'est beau, mais s'il l'a pas, c'est un échappé de l'autre côté. Mais ça, il n'y avait pas de problème parce qu'il était tellement bon, il le faisait, puis c'est pas grave, l'entraîneur le laissait faire même s'il y avait une erreur. Mais t'arrives dans la Ligue nationale, juste le fait de l'essayer, le coach, il perd des cheveux, puis si ça marche pas, en plus, là t'as de l'entraîneur qui te tape ses doigts, puis après ça, là, il commençait à être stressé, puis là, il vivait de l'adversité pour vrai. Fait que là, de jouer de la bonne façon, il avait jamais joué de la bonne façon, fait qu'il était pas capable de le comprendre. Puis c'était long pour lui d'assimiler toute cette notion-là de « Hey, il y a des endroits sur une glace, il faut que tu prennes la bonne décision », puis il était pas capable de le faire.
Parle-moi, oui.
Ouais, ben Jonathan Drouin, es-tu dans ce moule-là, tu penses?
Il est dans ce moule-là, mais il y a beaucoup plus de... selon moi, là, il y a beaucoup plus de notions de jouer de la bonne façon parce qu'on envoie des sparks, envoie des choses. Mais c'en est un que quand il va être capable de gagner la confiance puis d'être capable de choisir ses moments sur une glace puis de retrouver cette liberté-là, parce que Jonathan a besoin de cette liberté-là.
Il est très créatif. Il a le talent.
Exact. Mais il y a un moment où l'utiliser. Si tu es capable de choisir là, tes moments, ben, c'est là que tu peux faire les deux.
Parle-moi donc de Bruno Gervais. D'ailleurs, je le flatte pas dans le sens du poil au début de la chronique, justement, parce que je veux le piquer un peu. Mais toi, là, sérieusement, comme joueur de hockey, quand tu te faisais chialer après, là, tu sais, junior, t'as été capitaine, t'as été très bon, là, mais tu te fais planter par un coach?
Oh oui, souvent. J'étais un de ceux qui répondait bien à ça. Puis des fois, je me disais, tabarouette, je devrais peut-être pas répondre à ça, parce que là, l'entraîneur l'utilisait. Je répondais de la bonne façon à un coup de pied au derrière puis une claque en arrière de la tête. C'était ma façon, avec le caractère. Moi, je voulais montrer que je voulais répondre à ça. Je voulais montrer que j'étais capable. Fait que oui, j'avais pas de la misère.
Attends un peu, Bruno. Tu répondais pas verbalement. Tu argumentais pas la critique.
Zéro.
OK. Donc, tu le démontrais.
Je répondais avec mes gestes.
OK, parfait.
Je répondais avec mes gestes. de la façon... moi, où j'ai eu de la misère, puis j'ai frappé de l'adversité, puis quand je regarde, c'est, j'ai eu un entraîneur qui est venu jouer dans ma tête beaucoup sur les détails. Scott Gordon, qui était mon entraîneur à New York, qui vraiment... a eu une approche différente dans ma façon de faire, qui est venue créer un doute, puis que j'ai eu beaucoup de difficultés à me relever de ça. Ça a été toute une épreuve, puis ça a mis les choses en doute. La confiance a disparu. Je brouillais du noir, puis j'essayais de comprendre, j'essayais de voir. Ça a été différent, cette approche-là, puis je l'avais trouvé. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui venait, ça faisait 3 mois que la saison a commencé, puis il m'amenait dans son bureau pour regarder des clips d'un match hors concours, d'une erreur que, selon lui, mon bâton n'était pas à bonne place. Il était tellement piqué sur certains détails, j'avais de la difficulté à embarquer. Je doutais à chacune de mes actions, puis la seconde que tu te mets à douter, t'es dans le trou, t'es une seconde en retard. Fait que ça avait été une épreuve très, très, très difficile pour moi, et ça a été long là avant que... Il a fallu que je m'en aille à Tampa Bay. Quand je suis parti à Tampa Bay, là, ça a fait du bien, ça a eu du nouveau. J'ai eu Guy Boucher, Daniel Lacroix, Martin Raymond qui était là, un excellent staff. C'est à partir de là que j'ai pu rebâtir un semblant de confiance.
Bon, ça se faisait dans un bureau. C'était qui d'ailleurs qui te faisait ça? J'avais pas entendu.
Scott Gordon, l'ancien gardien des Nordiques.
Scott Gordon.
OK, OK. Ouais. Bon, ben, je comprends, puis il est amené dans le bureau. Puis, OK. Est-ce qu'il y a des coachs, est-ce que tu as vu des coachs juniors ou Ligue nationale devant l'équipe, parce qu'il y en a que ça passe pas, là, mais devant l'équipe. Puis si vous êtes aussi, mettons, mauvais que Gervais, ben, on gagnera pas. Donc, s'en prendre à un joueur précis, mais devant les autres.
Pas à partir du niveau junior ou professionnel. J'ai été chanceux. J'ai eu d'excellents entraîneurs à ce niveau-là. Je reviens à ça, puis il y a pas eu juste moi ou Rob Shrimp. Scott Gordon est un jeune entraîneur qui entrait, qui voulait faire sa place, puis il voulait s'établir, puis mettre un étampe. Puis des fois, je pense, c'était au début de sa carrière, puis je le revois, je le côtoie maintenant parce qu'il est un entraîneur dans la Ligue américaine, puis avec ma couverture des matchs du Rocket, puis je le revois, puis on a pu en reparler. Puis il a mis beaucoup d'eau dans son vin, puis il a changé son approche. Mais au début, c'était ça. Il essayait de lancer des messages, puis des fois, il était maladroit avec ça. Puis j'ai vu le plus gros match. On avait Bill Guérin comme joueur, comme capitaine à cette époque-là. Et le plus gros match là de FU, là sur une glace, puis une guerre entre ton capitaine et ton entraîneur, j'avais jamais vu de quoi d'aussi intense. Quelques semaines plus tard, Bill Guérin se faisait échanger au Penguin Pittsburgh, puis il allait gagner une Coupe Stanley. Fait que tant mieux pour lui. Mais Scott Gordon avait cette manière-là d'essayer d'aller piquer, que ce soit jeune ou vétéran, pour montrer qui était le boss. Puis il a été maladroit là-dessus, puis ça y a coûté cher, c'est sûr, pour sa job, mais je pense qu'il a appris beaucoup de ça, lui, c'est ce qu'il dit, mais c'est le seul entraîneur que je voyais là qui se prenait d'une façon différente, parce que sinon, moi, j'ai eu Réal Paiement, qui était excellent, j'ai eu Ted Nolan, qui était un player's coach que j'ai adoré, que tous les joueurs ont adoré, puis j'en ai eu des bons.
Est-ce qu'il y a des coachs qui se servaient de, mettons, la vie privée ou l'extérieur de la patinoire pour amener ça des fois à dire, ben, vous êtes sorti hier, puis là, vous êtes pourri aujourd'hui, ou ben, je sais pas, des points personnels pour essayer d'aller jusqu'à ce niveau-là pour vous craquer?
Ben, peut-être non. Pas personnellement. Moi, des histoires que j'ai vécues, moins, tu sais, j'en ai entendu beaucoup à travers la Ligue nationale, mais c'est certain que si les gars font une erreur, tu sais, je vais revenir, quand je me suis joint au Lightning de Tampa Bay, on a fait une grosse partie de notre camp de sélection à Québec. Et bon, on était au Mont-Tremblant pendant un bout, puis on est allé jouer un match en concours contre les Canadiens à Québec. Mais quand tu es dans un camp de sélection, tu as des moments pour travailler fort, bâtir ton équipe sur la glace. Tu as des moments pour bâtir la chimie d'équipe, la cohésion, du team bonding qu'on va appeler. Puis on était sortis à l'époque où... Ben, c'est-tu le Maurice ou dans ce coin-là? Là,
oui, c'est
la grande rue. Là,
fait,
oui. Ouais, on avait eu une belle soirée d'équipe, mais le lendemain, il y avait un match hors concours. Moi, j'étais chanceux. J'étais un de ceux qui ne jouaient pas. C'est encore moitié-moitié. Fait que t'as une moitié qui joue, moitié qui joue pas. Moi, j'avais joué à Montréal avant. Puis les gars ont sorti peut-être un peu trop fort, puis ça l'avait paru. On avait mangé une dégelée le lendemain, c'était pas beau à voir. Puis c'était venu aux oreilles, t'as Martin Saint-Louis, Vincent Lacavalier, Steven Stamkos d'un bord à Québec, ça va se savoir. Puis ça s'était su, et M. Eisenman et M. Boucher n'étaient pas très très fiers de l'équipe. On avait eu une rencontre à ce sujet-là en revenant. Fait que, ouais, les entraîneurs peuvent se fâcher si tu fais ce genre de décision-là.
Bon, toi, tu as joué avec Rock Voisine. Je sais que tu as quelque chose à me raconter à propos de Rock Voisine. Vas-y, je t'écoute. Je suis pas au courant du tout de cette histoire.
Ben, ça me parlait, c'est hier. C'est, on m'a lancé l'idée de parler. C'est Natacha, dans le fond, avec oui. qui je parlais pour parler électronique. Puis c'est elle qui a eu vent de ça. Puis c'est une petite anecdote. Là. Puis tu sais, Rock, beaucoup de respect pour lui. Puis je l'adore, mais c'est un très bon athlète, puis c'est un passionné, c'est un, il adore le hockey, puis c'est un intense dans tout ce qu'il fait.
Il joue pour les Remparts.
Il a joué pour les Faucons de Lévis-Lauzon, collégial 3A, puis ensuite, ouais. il est venu jouer pour les Remparts.
C'est un bon joueur de hockey. Puis Mathias Brunet, que je respecte beaucoup, avait une ligue à l'époque à Montréal. Puis il y avait tout le temps des joueurs. T'sais, Mathieu Dandonneau allait jouer, Vincent Lecavalier allait jouer des fois. Il y a une couple de gars qui ont été joués dans cette ligue-là. Puis il me lance l'invitation. Puis je respecte beaucoup Mathias, super fin. Fait que ben oui, quand je vais aller jouer d'une ligue à Montréal, pas de problème. Fait que là, je me présente là la première fois, mais je suis à mes débuts dans la Ligue nationale. Puis je me présente là, je dis bonjour à tout le monde. Je m'en vais sur le match, puis mon partner à défense, c'est Rock Voisine. Mais là, j'étais dans mes premiers matchs de Ligue de garage, mettons. Fait que je suis pas, j'ai jamais été un showboat. Non, j'ai jamais été, là, je m'en vais pas là pour impressionner personne, je m'en vais là m'amuser, rencontrer. Il y avait bien du monde que je connaissais de Montréal. C'était super le fun. Puis là, mon partner, c'est Rock Voisine, mais on embarque sa glace, on fait nos choses, on joue, puis là, le match commence. Puis moi, j'y vais, tu sais, je veux que le monde autour de moi s'amuse, hein, je veux que ça soit plaisant. Fait que moi, si tu t'en vas pour lancer la rondelle, je vais te laisser lancer. Si tu sais, je viendrai pas, j'essaie pas de faire un, c'est pas un camp de sélection, j'essaie pas de faire l'équipe, là, j'essaie pas d'impressionner personne, fait que je m'amuse. Fait que là, le match commence, puis il y a un gars qui est dans l'enclave, qui est sur une rondelle, puis je le laisse lancer, puis il lance, puis il passe pas juste carré, fait qu'on vient au banc, puis là, le voisin dit « Hey, good job, mais... » Ça, c'est ton gars, là. Fait que là, laisse-les pas lancer. Mais à ce moment-là, Rock n'a aucune idée. Moi, je viens de où, je suis qui. Il n'a aucune idée que je joue dans la Ligue nationale. En gros, là. Fait que lui, il me coach. Fait que là, à chaque présence qu'on vient, puis moi, je dis OK, d'accord, c'est pas de problème, Rock, il n'y a aucun problème. Je vais le checker le prochain coup. Fait que là, maintenant, j'ai la rondelle. Puis là, je prends mon temps, puis je laisse le joueur se tourner, puis là, je fais une passe. Puis les gars, bon jeu, mais fais ta passe plus vite. Fais ça, il faut que tu fasses ça plus vite, pour qu'on sorte. Fais ça. Fait que là, ça fait 3-4 présences qui, à chaque fois que je reviens, c'est comme mon coach qui me corrige, qui me dit ça, fais pas ça, puis fais ci, puis patine plus vite, puis sort là. Jusqu'à temps qu'il y a un des attaquants qui se tanne un peu et dit « Rock, il joue dans la Ligue nationale, je pense qu'il sait ce qu'il fait. » Là, il s'en vient et il me regarde. « T'es-tu sérieux? » Je dis « Ben, c'est correct. » Ça tentait pas de me le dire. « Mais non, mais Rock, c'est bon, j'aime ça, tu me coaches, c'est bon, on va avancer. » Et on a bien rigolé de ça, mais au début, il trouvait peut-être que j'étais pas assez intense. J'étais pas au niveau d'être son partenaire. Il m'aurait plus vu sur une deuxième paire de défense, mettons.
C'est bon, je joue à l'occasion avec les anciens nordiques, puis je suis tout le temps en train de l'essayer démotiver, puis de leur montrer, parce que ça se traîne les bottines. Fait que Marc Fortier, ça force pas ben tout.
T'aurais pu dire, Bruno, que ça tourne Hélène, là, franchement, c'était pas fort.
Ouais, j'aurais pu le corriger.
De hey, merci beaucoup, mon chum. Encore une fois, très agréable. T'es reconfirmé dans ton rôle de numéro un comme chroniqueur de hockey dans Dupont le matin. Alors, on se reparle mercredi prochain, mon chum.
Mercredi prochain.
Bye-bye. Bruno Gervais, donc notre analyste de hockey.
Il y en a des fatigants de même dans les ligues de garage. Là.
Oh oui.
Tu vas jouer là pour une fois, puis tu es là pour le fun. Lui, il te coach à toutes les présences. Tu reviens au banc, puis t'aurais pu faire. Sac-moi donc patience. Là.
Mais ouais. Le bout du coach avec les individus, là, ça s'applique dans toutes les entreprises un peu partout dans le monde.
Ouais,
il y a des gens qui fonctionnent à coups de pied dans le cul. Il y en a d'autres que c'est beaucoup plus des tapes dans le dos, des compliments. Puis un bon gérant, un bon dirigeant, là, ça sait quoi faire avec ses employés.
Oui, mais mettons l'employé qui marche, comme moi, tu as le droit de me crier après. Mm-hmm. Dans le sens, tu as le droit. Moi,
il faut que ça ait un objectif pour que tu sois meilleur.
Quand j'ai travaillé pour André Arthur, là, il m'a fait progresser de 10 ans en 2 ans et demi, mettons. Ouais. Mais puis j'ai un criant après, en étant très, pas criant, méchamment, tu sais, il me traitait pas de gros.
Testif,
là. Ouais. Tu sais, je vous raconte souvent l'anecdote, je suis au palais de justice, puis j'ai pas le nom du jeu, je me raccroche la ligne au nez. Puis t'as pas vu ça? As-tu checké tes décès à matin? Il me disait ça souvent. As-tu checké tes décès à matin? Je vais y aller. Alors, t'as pas demandé d'y aller, t'as demandé de la fête. Fait que, tu sais, c'était clair. C'était clair, net et précis. Moi, je fonctionnais de même. Mais je pense, Ray, qu'en 2020, mettons, l'employeur qui reconnaît qu'il y a des employés qui marchent un petit peu plus, si t'es coquet avec eux, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux plus faire ça.
On dirait que je suis pas tout à fait d'accord.
Mais je sais, toi, ton père disait qu'il y a personne qui a reculé.
Il y a quelqu'un qui a fait reculer personne.
Mais à cette heure, t'as plus le droit de faire ça. Ouais. C'est pas de même. Puis celui qui aurait besoin d'être dit, hey, commande, réveille, là!
Ça se fait pas comme en 1970 ou 80, non. Je le sais, mais de pousser une personne à être meilleure, faut que ça puisse encore se faire, là. T'sais, on peut pas laisser les gens faire tout ce qu'ils font, laisser les os se promener comme ils veulent, là.
Non.
T'sais, ça prend un objectif commun, puis c'est vrai, Bruno, il dit, c'est parce que les coachs, quand il essaye de pousser un joueur ou un employeur qui essaye de pousser un employé, c'est parce qu'il pense qu'il peut nous amener plus loin ou que lui, ça l'amène plus loin.
Ouais,
là. Un bon employeur. Je le sais que ça ouvre la porte à des mauvais employeurs qui crient aïe puis aïe pour
c'est
rien.
Ça. Puis moi, je te le dis, moi, je l'ai un peu vécu comme entraîneur dans le hockey mineur, mais de très haut niveau. Là. Je me souviens, là, mettons, là, on voulait, il y en a un qui n'en donnait pas, on l'assoyait au banc. Et puis, sans aucune explication, là. Tu sais, on n'avait pas besoin d'expliquer, il s'assoyait là. Puis là, tu le voyais, là. Tu voyais qu'il bouillait. OK, le 27, le 14, le 7, là, lui, il remarquait pas.
Son tour n'a pas, lui.
Non, là, tu voyais, puis il donnait un coup de hockey sur la bande. Des fois, les joueurs, ils se retournaient, puis ils t'achetaient un regard en voulant dire, qu'est-ce que tu as oublié, là. Puis là, on les voyait. Et là, il embarquait. Puis
là, tu sais que c'est le temps.
Ça a changé. Ouais, c'est sûr, ça a changé, mais Jonathan Marchessault, il va vous dire que Patrick Roy l'a amené à être le joueur qui est là, ou l'a aidé à être le joueur qui est là. Patrick a été tough avec Jonathan. Très, très tough.
Je sais pas, moi,
Jonathan n'a pas tant aimé ça. Le temps passé avec les Remparts, là, il s'est fait. Ray a totalement raison. Il s'est fait pousser. Puis à terme, je pense qu'il serait très content, mais dans le day-to-day, c'était tough, là.
C'est ça. Mais c'est comme nous avec nos parents aussi, des fois. T'sais, nos parents, ils nous font des reproches. Puis c'est rien que ils veulent pas nous planter, ils veulent qu'on soit meilleur.
Être coéquipier de Tom Brady, ça doit pas être le fun tout le temps.
Je pense pas. Mais il va te faire gagner, par exemple.
Il va t'amener ailleurs pour le bien commun.
Mais moi, quand je coachais, comme je te dis, là, tu sais, puis des fois, on était très cocky comme entraîneur avec des joueurs pour les amener à être meilleurs. Mm. Puis vers la fin, quand j'ai arrêté, c'est que si on serrait à vis à un, quel était son premier réflexe? Au lieu d'embarquer puis de vouloir manger les bandes puis d'appliquer ce qu'on demandait, il dit, bon, il m'a resté chez nous. C'était l'abandon. C'est aussitôt qu'on serrait à vis avec des joueurs remplis de talent, là. M'a abandonné.
Tout le monde est perdant.
Les joueurs. Moi,
lui est perdant, puis l'équipe est perdante dans ce temps-là.
Mais ça dépend du caractère de la personne. Il y en a, ça va vraiment écraser, ça va faire perdre confiance en ses moyens, ses capacités. Tu sais, quelqu'un qui se fait crier dessus, pour certains, il va aller tout scorer deux buts. Pour d'autres, même si c'est le meilleur de ta ligue, il en comptera plus
Rob
un Shrimp, parce qu'il va se sentir plus bien dans son sport.
Rob Shrimp, on en a parlé tantôt. Très talentueux, mais ça n'a pas marché.
Mon chum Marc qui m'écrit, il est crissement meilleur que Marc Chose. Il est vraiment bon, Bruno Gervais, honnêtement, c'est incroyable. Okay. Quelle découverte.
Je cherchais Marc Fortier, là.
Non, Marc Fortier, il se traîne
les bottines. Il est plus bon, hein.
J'ai été jouer avec eux autres, puis ça passe pas à pas. Mais sérieusement, Alain Côté, à un moment donné, ça c'est vrai, là, j'ai arrêté de dire des niaiseries, mais...
Le gars qui mange une tarte au sucre avant chaque match.
Oui, c'est ça, là. Fait que, il jouait avec, il dit, là, Steph, là, OK, t'es pas tout le temps à bonne place, mais c'est pas grave. Une affaire, quand tu passes quelque part, mets ton hockey à terre, puis ferme les yeux. Elle va finir par arriver, OK?
Il faut que ta voix arrive, par exemple?
Non, pas tant. Okay. Non, parce que lui, il a lancé sa palette.
T'es pas tout le temps à bonne place, hein? Ça a commencé comme ça?
Non, même qu'avant ça, il a dit t'es pas tout le temps dans la bonne zone.
Oh! Que...
Hey, eux autres...
Ils connaissent son hockey, par contre.
Parce que moi, à cause de ma forme physique, je fais des grands virages.
Ça s'appelle encore comme ça, une forme physique?
Oui, oui. Moi, je suis comme un paquebot. Tu sais, je suis pas un tillotte à virer Saint-Dicenne. Moi, tu sais, je revirerais pas dans le fleuve.
Ça fait-tu un bruit quand tu recules?
Presque. Fait que, il trouvait que j'étais souvent de son bord. Hey, il m'a-tu crié après de rester de mon bord? Marc Fortier, Dave Pichette. Alain Côté puis Dave Pichette. Il me criait de rester de mon bord. Ouais, Dave Pichette, il revenait au banc. Il était où le gars, Douette?
Comment tu voulais jouer, tu voulais aider.
Oui, c'est ça. Je joue plus qu'eux autres non plus. Si les anciens Canadiens m'appellent, je vais y aller. Les anciens Nordiques finis.
Okay. Les anciens Canadiens, ça va dire 60 sur les 10.
Ah, c'est ça. OK, on revient.